Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Gilles Gaillard. Porter son regard cette semaine sur le texte « La dernière volonté et le testament d'un chien extrêmement distingué » du dramaturge et prix Nobel américain Eugene O'Neill. Dans les années 40, pour consoler sa femme de la perte de son dalmatien, l'écrivain imagine un court texte dans lequel leur chien, Silverden emblème O'Neill, alias Blemmy, fait part à ses maîtres de ses dernières recommandations. C'est tendre, charmant, triste et réjouissant. On apprend que les chiens portent des manteaux de pluie et remuent la queue dans l'au-delà. Vous trouverez un lien vers le texte en anglais sur le site de l'émission. Je n'ai pas trouvé de traduction. Actrice, réalisatrice et scénariste à la fantaisie poétique, notre invitée vient de réaliser Nona et ses filles, une série diffusée en décembre dernier sur Arte et visible en VOD sur le site de la chaîne franco-allemande. Elle joue dedans et est également à l'affiche du film Madeleine Collins d'Antoine Barreau en salle pendant que je vous salue. Salutations chers auditeurs.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Valérie Donzelli.
Bonjour.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Ah oui. Oui, je crois.
Sans hésiter. Ah, vous croyez ?
Oui, oui, non, je crois. Je ne me suis jamais posé la question, mais je crois. J'aime bien la vie, oui.
Et êtes-vous en bon terme avec vous-même ? Est-ce que votre propre compagnie est plutôt plaisante ou...
Non, c'est plus compliqué, ça. Mais je commence à me réconcilier un peu avec moi-même.
D'accord, donc ouais. Quand même, le temps donne espoir.
Ah bah oui, toujours.
Bien sûr, je doute de jamais pouvoir atteindre dans le sublime les sommets extatiques où votre mère et moi-même fûmes emportés lors de la merveilleuse déclamation octosyllabique de la dernière fête des mères. Dont le texte, délicatement colorié façon la gerbe, enveloppe encore le dernier cache-pot William Sorin de la dernière fête des pères. C'était un très beau poème. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire profiter. Attendez, comment c'était déjà ? Ah oui. La merveille. Ma vie est un enchantement, quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue à tout moment, une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants, cette merveille, c'est maman.
1986, le sketch La Merveille de Pierre Desproges pour introduire ce qui vous donne envie de vous lever, Valérie Donzelli. Vos enfants, vous en avez 3, je crois.
Oui.
Vous n'êtes jamais submergée ?
Si, mais ça fait partie du jeu quand on fait des enfants. Enfin, ça, c'est très prenant et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça nous décentralise un peu de soi-même.
La série que vous venez de réaliser pour Arte, Nona et ses filles, tourne autour de la question de la maternité.
Oui.
C'est donc Miu Miu qui campe une militante féministe qui, à 70 ans, tombe enceinte.
Oui, c'est ça.
Et alors, cette question, elle vous travaille encore aujourd'hui ?
La question de la maternité, ouais. Alors je pense qu'elle me... Elle me travaille, même si je sais aujourd'hui que c'est quelque chose de passé pour moi, que j'aurai pas d'autres enfants, mais je crois que c'était le moment d'en parler parce que voilà, j'en ai eu 3 et que à chaque fois ça a été à des moments de ma vie très différents. J'ai commencé jeune et j'ai fini assez tard, et je trouve que on fait comme si c'était quelque chose de normal, alors qu'en fait c'est quand même quelque chose d'un peu extraordinaire de mettre au monde des enfants, et j'avais envie d'interroger cette chose-là à la fois dans ce qu'elle a de concrète sur l'accouchement, sur la grossesse, etc., et puis aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être une mère et tout le poids que ça, tout ce qui repose en fait sur nous quand on est une mère et qu'on veut qu'on veut aussi faire un travail qu'on aime, qu'on veut aussi avoir une vie avec des amis, enfin voilà, pas juste s'occuper de ses enfants, enfin, et c'est compliqué de tout réussir, je trouve. Et en même temps, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire j'ai eu des enfants et j'ai fait des films en même temps que faire des enfants, donc j'ai toujours tout mélangé, donc ça a toujours été, ça n'a jamais été un empêchement pour moi, mais je me rends quand même bien compte que j'ai peut-être avancé, enfin, que ça a été beaucoup d'énergie, quoi. De tout réussir à gérer.
Il y a quelque chose de beau que j'aimerais soulever, et pardonnez-moi si ça semble impudique, mais comme vous l'avez dit dans une interview, je me permets de le soulever. Je crois que vous avez avorté 3 fois.
Oui, tout à fait.
Et vous avez eu 3 enfants, et en fait, ouais. Je le souligne, non pas pour être comme un magazine People, oui. Mais parce que, en fait, je trouve ça beau de transmettre ce message aux auditeurs, puisque quand vous en parliez, Valérie Donzelli, vous disiez justement « j'ai eu des enfants que je désirais ».
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est très important, cette chose-là. C'est-à-dire que, quand j'ai vu le film d'Audrey Diwan, L'événement, ce qui m'a le plus bouleversée, en fait, en regardant le film, évidemment, c'était l'expérience physique du film, parce qu'il est... le corps des femmes est toujours quelque chose qui peut être maltraité, quoi, enfin, et puis en transformation, qui subit des choses. Les femmes ont un rapport à leur corps qui est quand même aussi lié à la douleur et tout ça, pour plein de raisons, tout au long de leur vie, que ce soit avec le début des règles, les premiers rapports sexuels, enfin, à chaque fois il y a quand même ce rapport à la douleur qui existe, je trouve. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, ce qui m'a bouleversée, c'est de me dire que j'ai eu la chance de pouvoir choisir mes enfants. C'est vrai que je n'ai eu que des enfants désirés. Et puis, c'est vrai que quand on parle d'avortement, c'est comme si c'est quand même un sujet encore très tabou, et c'est comme si on avait le droit d'avorter qu'une fois. Ben non, on peut avorter plusieurs fois, et puis ça ne regarde personne, et il n'y a pas un à culpabiliser de ça. Et puis c'est autorisé de le faire, faut quand même le dire, et c'est une chose très importante. Donc voilà, je l'ai dit lors d'une discussion. Après, j'ai un peu regretté que ce soit repris comme ça, comme si c'était parce que c'était pour le magazine Paris Match. Donc j'étais un petit peu fâchée après la journaliste, parce qu'elle a juste raconté ce qu'on s'était dit, et on avait une discussion un peu animée. Mais voilà, c'est mon histoire, et je l'assume complètement, voilà.
Non, mais c'est une réflexion importante et profonde.
Oui.
Pour revenir à l'enfance, plus généralement, dans Nona et ses filles, vous campez un personnage très amusant, vous avez des nattes, un kilt, du vernis de toutes les couleurs, vous êtes très enfantine.
Oui.
Et puis à un moment, il y a cette réflexion dans l'épisode 6, personne n'a réellement envie d'être adulte, non. Est-ce que vous vous considérez, vous, Valérie Donzelli, comme une adulte, et est-ce que vous avez envie parfois d'être adulte?
Oui, plus maintenant, en fait. J'ai plus envie d'être adulte aujourd'hui. Et je me considère plus comme une adulte. Et je crois que ce qui me permet de dire ça, c'est que j'ai quand même un endroit de l'enfance que j'ai préservé, qui est celui du cinéma et du jeu, en fait. Donc, cette chose-là me plaît assez, en fait, d'être adulte à l'endroit où il faut être, et de rester une enfant à l'endroit où je peux m'autoriser à l'être.
Dans quelques instants, on abordera différents sujets, comme par exemple l'amour, le désordre, Virginie Despentes, l'amitié, le cinéma, Nietzsche, la comédie musicale, la séparation, la Normandie et la verticalité. On est ensemble jusqu'à 11h.
tout, amour toujours, mais pas longtemps, à la folie, passionnément, un peu, beaucoup, pas du tout, amour toujours, quitter de va dévorer l'autre premier, car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser, un peu de soi, quelque part, quitter de va dévorer l'autre premier, car pour ne faire plus qu'un, il faudra
Amour toujours de Clara Luciani dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Valérie Donzelli. L'enchantement dionysiaque, extrait de l'opéra Bacchus et Ariane du compositeur Albert Roussel, dirigé ici par Charles Munch. J'ai choisi d'aborder l'une de vos réponses, Valérie Donzelli, par la figure de Bacchus, alias Dionysos, qui chez Nietzsche est opposé à l'apollinien. Alors le dionysiaque, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers, c'est le chaos, l'excès, et l'apollinien, c'est l'ordre, la mesure. Et si je parle de Nietzsche, c'est pas pour crâner, c'est parce qu'il en sera question plus tard.
Enfin, je suis pas une grande connaisseuse non plus.
Non, mais vous avez choisi l'un de ses ouvrages, et quand je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans la société, vous avez répondu le désordre, presque tout. Et moi, j'aimerais savoir de quel désordre vous parlez, vous qui le mettez si souvent en scène.
Ben, en fait, oui, c'est marrant que j'ai le désordre, presque tout. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses qui vont pas, quoi. Enfin, et après, c'est vrai que je suis une familière du désordre, c'est-à-dire que je le fabrique pour après l'organiser. Et je trouve que il y a un désordre là qui va plus en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Et personne ne dit les choses qu'il faut. Enfin, ou personne ne fait ce qu'il faut. Je parle de évidemment bon l'écologie. Ça va de soi. Enfin, c'est tellement dramatique ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas pu l'anticiper un tout petit peu. Je trouve ça très étrange en fait que ce soit si long, que ce soit si. Et puis aussi toutes les inégalités sociales qui démarrent quand même à la naissance en fait. C'est quand même cet éternel recommencement du privilège de la naissance, d'être né au bon endroit, au bon moment. Enfin, alors je sais pas, moi j'ai pas du tout de solution, mais il y en a quand même qui sont là, qui étaient là en tout cas pour essayer d'éviter toutes ces choses-là, qui sont l'école, qui sont enfin, voilà une éducation commune pour tout le monde. Et puis tout, un hôpital public, enfin voilà des choses comme ça qui, puis on a l'impression que tout part, voilà que ça s'améliore pas quoi, donc c'est ça me rend triste en fait, et ça me rend triste et ça me rend complètement impuissante et voilà, donc quand je dis ça c'est un peu, alors après il y a des choses qui se sont améliorées aussi, notamment là récemment quand même. Sur les femmes, sur les violences faites aux femmes, sur
la considération.
Oui, la considération, les enfants même. Enfin, mais je trouve que on est en 2022, quoi.
Ouais,
c'est
ça
bizarre.
Va très lentement.
Ça va tout doucement. Enfin,
le désordre, en tout cas quand il est orchestré, ça, je crois que vous avez une certaine tendresse pour lui. Je pense à ce portrait de Luc Levaillant dans Libération en décembre dernier où il y a cette phrase. Donc c'est chez vous, au cœur de son appartement parisien, où règne un bordel enfantin et un sens du désordre idéal. Et dans Nona et ses filles, on est frappé aussi par le désordre. Ouais. Tout le monde vit sous le même toit, il y a des enfants partout. C'est...
Ouais. Mais j'ai vécu dans le désordre, en fait. Ma mère était très, très bordélique. Je me souviens de mon père piquant des crises parce que il retrouvait pas ses affaires. Et c'est vrai que j'ai eu une mère qui était très, très foutoir, quoi. Il y en avait partout. Et puis d'un coup, elle se mettait à vouloir bêcher le jardin. Alors hop, elle allait avec sa bêche. Et puis le jardin était devenu un espèce de champ de bataille. Puis c'était comme ça, ça reprenait pas. Et je crois que le désordre, c'est aussi... D'abord, il y a quelque chose de drôle dans le désordre.
De vital.
Et puis de vital parce que les choses sont pas figées. Et moi, c'est vrai que j'ai une façon comme ça de tout chambouler tout le temps, même à la fois à l'intérieur de moi et puis dans ma vie. C'est vrai que c'est... Alors maintenant, avec les années, je me calme un peu et tout ça, mais je crois que ça rend vivant aussi. Il y a quelque chose de vivifiant.
Dans vos films, les êtres sont chamboulés, ça c'est sûr.
Oui.
Et dans votre série, il y a cette phrase « J'adore le trop-plein, je le préfère au trop vide ». C'est votre cas aussi ?
Oui. Le trop vide, ça m'angoisse complètement. C'est un peu la mort quand même. Hein. C'est-à-dire que quand il ne se passe plus rien... Voilà. Non, moi je préfère le trop-plein, oui.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier, où deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise. Alors l'amour et l'amitié n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence.
1974, entre l'amour et l'amitié d'Henri Tachant, soit les deux domaines dans lesquels vous êtes pleinement engagée, Valérie Donzelli, et question d'amour dans tous vos films, qui sont aussi remplis d'amis. Il y a très peu de personnages seuls dans vos films.
Oui, c'est vrai. Enfin, si, dans La Reine des Pommes, la cousine, elle est seule. Enfin, c'est deux solitudes qui se rencontrent,
oui.
Mais qui deviennent amies.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnages seuls, oui.
Vous avez beaucoup joué seul dans votre tête petite.
Oui.
Je crois que vous avez horreur de la solitude.
Horreur. Je n'aime pas ça du tout.
Vous écrivez aussi en duo.
Oui, j'aime bien écrire en duo. Alors après, je réécris seul. J'aime bien écrire. De toute façon, j'adore ça. Mais j'aime bien écrire avec quelqu'un. J'aime bien partager. J'aime bien parler. J'aime bien. Non, je suis pas du tout faite pour la solitude. Ça m'effraie complètement.
Alors, vous avez choisi l'amour et l'amitié, qui sont les deux endroits qui comblent le plus et qui blessent le plus.
Oui.
Ça vous fait pas peur? Vous prenez facilement des risques?
Ben, je me rends compte que j'en ai pris pas mal, oui. Après, en amitié, j'ai quand même des amitiés de très longue date, très fidèles, beaucoup de femmes. Et puis, ben, en amour, oui, l'amour, c'est toujours un risque, de toute façon, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, quoi. On n'a pas le...
Ouais, et souvent pas très bien avec le temps. Ça dure souvent moins longtemps qu'une amitié.
Ça dépend.
Depuis que les mariages ne sont plus une entité...
Ça dépend, il y a quand même des couples qui... Il y a des histoires magnifiques qui durent et tout ça. Non, je crois que tout est possible, en fait.
Et puis l'amitié, là, vous soulevez justement l'amitié avec les femmes. Dans une interview aussi, vous souleviez ça, que vous en aviez marre de... Non, mais ça c'est important de le dire.
Oui, mais ça m'insupporte. Non, mais moi, j'ai grandi quand même avec l'idée que l'amitié entre femmes n'existait pas, que les femmes étaient forcément des rivales, jalouses, elles se crêpent le chignon. Et je trouve ça totalement infondé et injuste, en fait. Moi, j'ai grandi avec des femmes, j'adore les femmes, j'ai énormément d'amis femmes, et je me sens bien avec les femmes, en fait. Donc, faut arrêter de dire que ça n'existe pas, ça existe, voilà.
Votre engagement est ailleurs aussi, Valérie Donzelli. En 2017, je crois que vous avez réalisé le clip de campagne de Benoît Hamon.
Oui. Alors, je l'ai réalisé parce qu'il y en avait un qui avait été fait et puis qui fonctionnait pas, donc je l'ai un peu fait comme ça... À la rescousse, quoi, mais c'était super.
Vous êtes aussi membre du collectif 50-50.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Bah, c'est sur l'égalité homme-femme. Alors, je crois qu'au départ, c'était 50-50 en 2020 sur l'égalité des salaires, etc. Je ne sais pas si si ça a été atteint, cette chose-là. Et puis, voilà, c'est un collectif pour dire que les femmes comptent autant que les hommes et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas à faire de différence, en fait, et sur la responsabilité des postes, et sur les salaires, et sur plein de choses.
Vous dites aussi que le fait d'être une femme réalisatrice qui fait une série sur une femme de 70 ans, sur des filles de 44 ans, etc., ça a un poids politique, même si ce n'est pas conscientisé chez vous.
Oui, en fait, je ne l'ai pas fait pour ça, mais forcément, c'est politique, puisque je pense qu'un homme n'aurait pas eu cette idée, tout simplement. Parce que voilà, la question de la maternité chez les hommes, ça aurait été différent. Ils l'auraient abordé différemment. Donc moi, j'ai mis les mains dedans. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était que ce soit une femme de 70 ans, donc qui est censée pouvoir jouir pleinement de sa vie et aussi de sa sexualité sans se préoccuper de la contraception, qui est toujours la question des femmes aussi. Ça, c'est, on nous bourre d'hormones pour pas avoir d'enfants, puis après on nous reproche d'avorter. Enfin bon, bref.
Puis quand on peut plus avoir d'enfants, voilà, on nous bourre d'hormones.
Et puis quand on peut plus avoir d'enfants, ben, on n'en sert pas à grand chose. Bon, bref. Donc, j'avais quand même envie de mettre au cœur d'une série une femme de 70 ans qui enfin se dit, ça y est, je vais un peu profiter de la vie, et qui se retrouve avec ce fardeau. Elle est enceinte et elle n'en veut pas. Et ses filles, donc, qui vont se reconnecter avec elle aussi parce qu'elle est amoindrie pour s'occuper d'elle, pour, voilà, de parler de cette question-là autour de trois figures de sœurs qui sont triplées et très différentes.
On continue à parler justement de féminisme.
Je crois que c'est un essai féministe assez traditionnel. En plus, cette idée de partir de son expérience propre pour extrapoler sur le collectif ou le politique, je crois que je suis pas la première, loin s'en faut. Tu parles de mon passage à l'écriture en tant que fille, comment j'ai l'impression d'être marquée en tant que fille, et que même si effectivement au départ je me posais pas les questions en termes féministes ou n'importe quoi, de toute façon après je suis obligée de me les poser comme ça parce qu'on va me rappeler que je suis une fille tout le temps. Mais je parle en fonction de ça, mon passage à l'écriture, il se passe aussi plein d'autres choses, quoi. Pareil dans ma vie, entre le viol, la prostitution et aujourd'hui, il se passe heureusement pour moi quelques autres choses marquantes, quoi.
Virginie Despentes, au moment de la sortie de King Kong Theory en 2006 dans la bande à Bono sur France Inter, cet ouvrage vous a aidé à faire face au monde. Valérie Donzelli, dedans, elle analyse les mécanismes de la domination masculine, et je vous cite l'extrait le plus connu. « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. » Il y a un discours à un moment dans Nona et ses filles. Bon, je vais pas dévoiler ce qui est dit dedans, mais ça m'a un peu fait penser à ça. C'est Miu Miu qui ressemble au pape. Elle nous pose un peu de paf. Ouais. Est-ce que
oui, vous... oui, mais parce que en fait, quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu tard. Je devais avoir, après 25 ans. Et en fait, c'est d'un coup, il y avait une sorte d'apaisement comme ça où je me suis sentie comprise et je comprenais ce qui était dit. Et comme si c'était des choses que j'avais ressenties, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, ce rapport de domination avec les hommes, qui passe par plein de choses différentes, qui sont d'un coup les hommes qui nous regardent dans la rue quand on commence à avoir 15 ans, et puis on sait pas trop quoi faire de ce regard, la peur de rentrer chez soi, la peur d'être agressée, la peur de pas se sentir libre, en fait, tout simplement. Alors, je sais pas d'où elle m'est venue. Je pense que c'est un peu... Peut-être pour plein de raisons, mais quand même, il y a toujours eu ce truc des... Puis même dans les films, dans tout ce qu'on pouvait regarder, en tout cas, du cinéma. Quand on regarde le cinéma des années 70-80, les femmes, c'est fou, en fait, de voir comment elles sont considérées dans les films, comme des objets qui ne pensent pas, souvent, qui sont belles... qui sont juste dans des rapports amoureux, qui souffrent, qui sont trompés, qui sont je sais pas quoi. Enfin, aujourd'hui, ça fait bizarre, en fait, de revoir tout ça. Et c'est vrai que quand moi, j'ai lu le livre de Despentes, je me suis dit, ah, cette meuf, j'ai envie de la rencontrer. Enfin, j'avais envie d'être sa copine, j'avais envie qu'on discute ensemble. J'avais l'impression qu'on m'apprenait quelque chose, que ça me faisait du bien, que c'était vital. Et je me suis dit, oh, en fait, tout ce que j'ai toujours ressenti, ben, quelqu'un d'autre le dit beaucoup mieux que moi. Et c'est super. Et après, je me suis mise à offrir le livre à plein de gens. Et dans La guerre est déclarée, la petite babysitter lit ce livre-là.
C'est vrai que là, en soulevant les femmes dans les films, j'allais vous dire, mais non, dans les films noirs, par exemple, ce sont des créatures avec une personnalité, une intelligence redoutable. Oui, mais en fait, ce sont des femmes fatales et diaboliques. Donc c'est toujours négatif, en fait.
Oui, c'est toujours... Alors après, il ne faut pas généraliser. Il doit forcément y avoir des exceptions et tout ça.
Oui,
mais
bien
c'est
sûr.
Vrai que... Quand même, quand on regarde, c'est pas du tout, les femmes sont pas montrées comme, enfin, il y a un vrai changement aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que je regardais le documentaire Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, et tout ce que racontent ces femmes actrices, c'est ce qui est encore dit aujourd'hui. Et elles disent à un moment donné, et c'est, je crois, je sais plus qui, mais je crois que c'est Juliette Berthaud, je sais plus, il y en a une qui dit, mais ça va changer quand les femmes se mettront à écrire des histoires et quand elles réaliseront des films. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, moi, je trouve ça super et je pense que ça ne va faire que... ça va être une vraie révolution.
Mais ça va mettre du temps, parce que là, je pense à une femme que je connais qui est réalisatrice et qui, pour son film, avait besoin justement d'une femme de plus de 60 ans. Elle cherchait une belle femme de plus de 60 ans, il y en a plein. Et en fait, elle n'a pas trouvé pendant très longtemps parce qu'elle cherchait une femme qui n'avait pas été retouchée.
Alors ça, c'est encore autre chose.
Oui, mais c'est une injonction aussi.
Oui, mais ça, moi, je suis assez tolérante là-dessus. Je trouve que on peut pas en vouloir aux femmes de vouloir...
Ah non, mais elle n'en voulait pas, c'était juste...
S'embellir, enfin, la chirurgie esthétique, c'est un truc... Moi, je sais pas comment... Peut-être j'aurais envie de faire de la chirurgie esthétique.
C'est ça. Il n'y a pas de jugement moral hein, dans
non,
ce que
ouais.
je dis.
Mais donc, c'était quoi le problème? C'est qu'on ne trouvait pas d'actrice qui n'était pas...
Non, c'est que je me pose simplement la question de... S'il y en a autant qui en font, c'est peut-être aussi malgré tout. Je veux dire, vouloir s'embellir, c'est naturel, ça existe depuis la nuit des temps. Mais oui. C'est peut-être aussi parce qu'encore une fois, on obéit à des injonctions, que quand on est une actrice d'un certain âge, on trouve moins de rôle, on est moins un objet de désir.
Moi, je crois qu'on le fait. Moi, j'ai un. Je sais pas.
J'ai pas la réponse,
ce truc-là.
Hein. Ouais. Oui, c'est compliqué.
Mais je crois qu'il faut. C'est aussi par rapport à soi. Enfin, après, j'ai l'impression que la chirurgie esthétique, aujourd'hui, c'est tellement démocratisé que. C'est un peu comme les crèmes anti-rides il y a 20 ans. C'est vrai que les femmes, c'est vrai qu'il faut... Mais je pense qu'en fait, tout existe aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a des femmes qui assument complètement, qui affichent les cheveux blancs, les trucs. Il y en a d'autres, elles n'ont pas envie. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Les hommes peuvent mettre des jupes, tant mieux. Enfin, moi, j'ai l'impression que plus il y aura de diversité, des femmes très sophistiquées, d'autres moins, plus les choses iront mieux, en fait, et qu'on pourra plus stigmatiser... Non,
ouais, peut-être justement, je m'interrogeais à voix haute parce que j'ai justement pas la réponse.
Oui,
mais la diversité, en tout cas, elle est très présente dans votre série Valérie Donzelli.
Oui, bah...
c'est fort d'avoir fait ça parce que elle, vraiment, je pense que tout le monde est représenté.
Oui, alors c'était un peu, pour le coup, j'avais envie que ce soit assez contemporain et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, voilà, les jeunes filles de 16-17 ans, elles sont pas forcément comme. Quand j'étais jeune, voilà, c'est plus androgyne, il y a plus d'androgynéité, je trouve, et moi je trouve ça très intéressant, cette question du genre, justement, qui est en train de changer, et je trouve ça beau. Voilà.
Dans votre équipement existentiel, il y a aussi évidemment le cinéma. Je crois que vous avez fait des études d'architecture.
Oui.
Comme Maud Crayon dans Notre-Dame.
Oui. moi je suis pas architecte. Hein.
Non, vous avez abandonné ces études.
Oui.
Et alors votre rêve, j'ai lu ça, était de devenir une de ces speakerines que l'on voyait à la télé chez vos grands-parents et aussi danseuse au Lido.
Oui, alors voilà, des choses très, très sexy, c'est vrai. Alors, ce que je trouvais fascinant avec les speakerines, c'était qu'elles passaient leur journée à dire des trucs. Elles avaient des beaux chemisiers, je crois que je fantasmais un peu la féminité que j'avais pas forcément chez moi et que... Et puis danseuse au Lido, oui, j'ai toujours aimé ça, les shows... Les striptease, les trucs comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours un peu. J'adore les femmes, le Lido, les paillettes, ces espèces de corps comme ça où elles dansent. Avec... Enfin, il y a un truc. Je pense que c'était, c'était presque un peu érotique quoi quand j'étais enfant. Et c'était quelque chose. L'érotisme passait plus par les femmes que par les hommes quand j'étais petite.
Bah c'est plus beau hein, esthétiquement quand même.
Une oui, femme. Mais je pense que c'est. Non, mais je pense
sens que je recevoir des trompes d'insultes.
Non, mais je pense que. Pour une petite fille, je pense que c'était moins menaçant aussi.
Oui.
Il y a quelque chose qui était plus... J'allais vers un endroit que je connaissais mieux, qui était le mien peut-être. Donc je pense que c'est juste ça aussi.
Le rôle du cinéma dans votre vie, bon c'est évidemment parce que vous le fabriquez ce cinéma, mais est-ce que c'est aussi en tant que spectatrice?
Ah oui, j'adore aller au cinéma, oui.
Là, vous faisiez partie du jury du Festival du film fantastique de Gérard May.
Oui.
Vous avez pris du plaisir, j'imagine.
Oui, et puis surtout, j'en ai pris plein la figure parce que c'est des films qui ne sont pas évidents à regarder, surtout quand on en voit trois dans la journée. Et c'est super intéressant. C'est vraiment ça, le cinéma fantastique, de genre et tout, permet d'explorer vraiment des choses très inconscientes, très enfouies. Enfin, les vieux démons. Enfin, j'ai trouvé ça dément.
L'embellie, Eva Bester sur France Inter.
Funny girl, you look so unassuming, right up until the room you're captivating starts to fill with gut-busting laughter. You're transformed.
into a 5 foot Cleopatra. Funny girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live action Kathy. Could you pencil in an industry outsider? Yeah, you're young, but baby, you're not getting young. Funny
Funny Girl dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Valérie Donzelli.
Comment pourrions-nous nous permettre de blâmer ou louer l'univers ? Gardons-nous de lui reprocher un manque de cœur ou de raison, ou le contraire de ces choses. Il n'est ni parfait, ni beau, ni noble, et ne veut rien devenir de tout cela. Il ne cherche pas le moins du monde à imiter l'homme. Il n'est touché par nul de nos jugements esthétiques et moraux. Il ne possède pas d'instinct de conservation. Il ne possède pas d'instinct du tout et il ignore toute loi.
Extrait du Gai Savoir de Nietzsche, lu par Jean-Pierre Fay sur France Culture en 2000. Un livre à lire pour être armé dans l'existence, selon vous, Valérie Donzelli.
Oui. Oui, je trouve, parce que d'abord, il est assez simple. C'est des petits textes, c'est pas très compliqué et... Et je trouve qu'il a une façon de dire les choses qui est limpide, en fait, et qui font écho, un écho avec ce qu'on, avec sa propre vie. Donc il y a quand même quelque chose d'assez, oui, d'assez réparateur, quoi. C'est un peu comme un petit médicament.
Et puis, il fait le diagnostic de la morbidité de l'époque, donc à son époque, qui en fait est toujours la même. Hein.
Oui, c'est toujours d'actualité. Puis aussi, c'est pareil, c'est un peu comme des pentes, c'est des petits nœuds qui se dénouent comme ça quand on lit ça, on se dit « Ah tiens, c'est marrant, cette chose-là je la connais » ou « Cette chose-là j'ai ressenti ».
Il y a aussi l'idée de l'art qui nous console de la réalité, du fait de trouver la vérité par l'art. Ça, j'imagine que ça vous parle.
Ouais, trouver la vérité par l'art, oui, parce que parfois on est tellement, il y a plus de questions en fait, on est juste subjugué. Donc c'est une forme de vérité de l'amour, du beau, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose d'assez fort, oui, dans cette espèce de connexion comme ça à l'art.
Pour Nietzsche, il y a une vertu suprême qui est l'indépendance. Vous l'abordez aussi. Par exemple, dans votre série, Valérie Donzelli, c'est la vertu suprême. Et vous qui aimez les bandes, les alliances entre les êtres, cela rend dépendant, en fait, ça, même en infime mesure.
Oui, mais je suis quand même très indépendante, je crois. C'est ça qui est étonnant, c'est que j'aime pas être seule, mais je suis indépendante.
Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec le Gai Savoir ?
Alors oui, je m'en souviens, c'est une amie, je crois. C'est ma meilleure amie qui m'avait... Je l'avais lu chez elle, je l'avais trouvé chez elle et j'avais commencé comme ça. Et puis quelqu'un lui avait offert et elle me l'a offert. Et après, je me suis... Oui, c'est ça. Donc, je devais avoir, je dirais, 30 ans, peut-être. 28 ans.
Les femmes de...
En tout cas, c'était pas à l'école.
Mais c'est souvent, les rencontres, souvent, avec les livres, sont pas à l'école.
Oui, puis la philo, je me rappelle, en terminale, c'était dur parce que j'avais un prof très difficile. Et puis, il y avait quelque chose, on en fait très peu. On commence juste en terminale. Je sais pas pourquoi on commence pas un peu plus tôt, d'ailleurs. Parce que c'est passionnant. Et après, on abandonne ça, alors que...
Dedans, les femmes sont dépeintes comme des êtres perfides et manipulateurs, mais je ne vous apprends rien. Il y a aussi cette idée d'amor fati, d'amour de son destin, de grand oui à la vie, d'approbation.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis un petit côté comme ça.
Bah oui, justement, c'est pour ça que je le soulève.
Ouais.
Ça a toujours été le cas ?
Oui, un peu. Ouais, je me dis, voilà, c'est mon... J'ai un petit côté comme ça, où je prends les choses comme elles arrivent, quoi. Je ne vis pas trop les choses comme des fatalités.
Et vous n'avez pas une tentation du contrôle ?
Pas du tout. Alors là, vraiment,
C'est rare, ça, pour une réalisatrice.
Bah, ouais. Mais en fait, je contrôle quand même beaucoup, oui. Puisque je fais des films. Mais
il y a beaucoup d'improvisation, je crois, sur vos tournages.
Oui, je suis pas contrôle fric, en tout cas. Mais je contrôle, mais ma façon de contrôler, elle est toujours un peu détournée. C'est de faire du chaos. Voilà, donc je contrôle en mettant le bordel et puis après je le réorganise.
Vous êtes dionysienne.
J'aime ta peau blanche et ton grain de beauté, tes hanches quand tu flanches. J'aime te réchauffer.
Et j'aime tes cils d'ange et tes cheveux de jet, ta voix quand t'as froid. J'aime te réchauffer. J'aime ton nez droit et ta bouche cerise.
La chanson Ton grain de beauté, qui a été composée à l'occasion du film La guerre est déclarée, votre film, Valérie Donzelli, et là c'est Benjamin Biolay et vous-même qu'on entend chanter. Au cours de votre vie, vous aimeriez accomplir une comédie musicale au sens propre comme au figuré. Alors déjà, on chante dans presque tous vos films.
Oui, c'est vrai.
Et puis au figuré.
Oui, parce que il y a quelque chose de très joyeux aussi dans... Dans la comédie musicale, il y a deux choses que j'aime. D'abord, c'est le chant et puis aussi la danse. C'est-à-dire d'arriver à exprimer les choses par le corps et par les mots chantés, quoi, comme quelque chose de décalé. Et j'ai l'impression que dans la vie, parfois, on n'arrive pas à se dire des trucs et qu'on pourrait se les dire en chantant et en dansant, mais c'est difficile dans la vie. Et dans les films, c'est super parce que dans les films, c'est possible. Et je trouve qu'il y a... moi, en tout cas, la comédie musicale, c'est vraiment... un émerveillement, quoi. C'est quelque... d'un coup, quand on bascule dans cette dimension-là, c'est totalement fantastique, quoi. C'est dans cette dimension, complètement décalée et tellement bouleversante de voir que tout devient merveilleux. C'est un peu merveilleux, quoi. C'est quelque chose de, je sais pas. Ça me fait plaisir, quoi.
C'est une sublimation du réel. Ça a commencé dès le premier long métrage, La Reine des Pommes, c'était chanté.
Bah oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait. En fait, j'avais commencé à... l'histoire d'écrire des chansons, ça m'est venu quand j'étais enceinte de Gabriel, parce que je pouvais pas jouer. Je me disais je suis enceinte, personne ne m'a proposé de rôle. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je me suis mise à écrire tout un album de chansons. Et je voulais faire une comédie musicale qu'on écoute, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de film. Et puis ces chansons, je les ai gardées. Alors peut-être qu'un jour, je le ferai, ce disque qu'on écoute, cette comédie musicale qu'on écoute. Et puis, quand j'ai écrit La Reine des Pommes, il y avait des choses que je n'arrivais pas à dire. Et j'ai repris des chansons que j'avais écrites, qui étaient des chansons de cet album qui s'appelait Odile Tekel est malheureuse, qui la rendra heureuse.
Valérie Donzelli, je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez répondu « mes séparations ».
Ouais.
Est-ce qu'on peut réussir une séparation ?
Bah, il paraît qu'il y a des gens qui y arrivent très bien.
Ah bon ?
Je sais pas, moi j'ai pas réussi.
Ça me paraît
non, mais je trouve ça très dur, quoi. Ça prend du temps, je pense. Ouais.
Est-ce que mettre
non, puis même les séparations, Même en amitié, en amour, toutes les séparations, c'est vraiment un truc que j'ai pas, je crois, pas très bien réussi.
Est-ce que le fait de mettre en scène des ruptures dans vos films vous a aidé dans le réel ?
Non, parce que je trouve que dans mes films, elles sont plutôt réussies, les séparations.
Mais ça ne mettait pas une distance ?
Ah, je sais pas.
Vous savez, parfois, il y a des chanteurs qui disent « j'ai eu un chagrin d'amour, puis j'en ai fait un album, et à la fin de l'album, ça allait beaucoup mieux, parce qu'en le mettant en forme, en fait, j'avais réussi à créer une sorte de distanciation. »
Ah, je sais pas. Je me suis pas posé la question comme ça. Mais après, moi, j'ai un rapport à mon travail qui est très psychanalytique aussi. Tout est lié un peu avec mon inconscient, tout ça. Alors peut-être, oui, peut-être ça fait du bien. Ça fait toujours du bien de faire des films, de toute façon. Mais je sais pas si ça les met tellement à distance. Peut-être quand même.
On vient de se rendre à l'endroit où se trouve la chose belle que vous recommandez aux auditeurs. On est en Normandie, sur une plage à marée basse. Oui. Qu'êtes-vous en train de faire, Valérie Donzelli ?
Comment ça ?
Sur la plage, là.
Ah ! Ben, en fait, j'adore la marée basse en Normandie. Je trouve ça magnifique, cette espèce d'horizon comme ça, très loin. C'est apaisant, c'est... Je sais pas, c'est quelque chose qui calme. Et donc, je marche. Je me promène. Je fais rien.
Vous êtes dans la contemplation et il n'y a pas de mélancolie.
Oui. Non.
Marguerite et Julien, ça a été tourné à Cherbourg, je crois.
Oui.
Quels sont vos rapports avec la Normandie ?
Ben, c'est un peu une terre d'accueil parce qu'on est allé là-bas tous les étés à partir de l'âge de 12 ans, toujours au même endroit. C'est là-bas que ma mère est enterrée. Voilà, c'est un endroit que j'ai connu. C'est l'endroit des vacances, c'est l'endroit... J'aime bien parce que c'est modeste.
Je vous ai demandé un engagement à prendre vis-à-vis de vous-même ou de l'extérieur à la sortie de cette émission. Et vous avez répondu de rester vertical, c'est-à-dire ?
Oui, eh ben, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles dans la vie, de ne pas flancher, quoi, de rester vertical, c'est-à-dire... de tenir, quoi, à la fois dans ses idées, à la fois matériellement, à la fois dans plein de choses, quoi, d'avoir une sorte de... j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vraiment ça, quoi, de tenir debout, quoi, de pas flancher. Et il y a plein de choses qui peuvent nous faire flancher, surtout... Avec le métier que je fais, est compliqué parce que voilà, parfois les projets, on ne sait pas si vont se faire. On a toujours un peu peur de ce que sera le lendemain. Enfin, c'est tout. Puis quand on a des enfants, on a peur de voilà, il faut. Et puis je trouve que plus on avance dans la vie, j'ai l'impression que si on n'est pas honnête avec soi, si on n'est pas dans une forme de vérité intérieure, d'apaisement, etc., ben c'est de plus en plus difficile de rester vertical. Donc, j'ai l'impression que ça va. Que je fais tout pour y arriver.
Vous avez déjà quitté...
Pour rester vertical jusqu'au moment où on peut passer à l'horizontale, oui. Et mourir. Voilà.
Mais ça vous est déjà arrivé de passer à l'horizontale, de flancher de votre vivant ?
Ouais, quand même, il y a des moments où c'est... Oui, mais j'ai quand même une petite fureur de vivre, quand même, qui me rattrape toujours. Non, je crois que j'aime profondément la vie.
Et comment est-ce qu'on s'y prend alors quand on a comme engagement de rester vertical ? Est-ce qu'il y a par exemple des astuces ou des réactions immédiates que vous avez quand vous voyez que l'abîme vous guette ?
Ben, je pense pas que ce soit... je pense que c'est quelque chose qui infuse sur le long terme en fait. C'est petit à petit que ça se fait, c'est pas bing, boum. Non, je crois que c'est une forme de... Mais bon, moi j'en parle là parce que j'ai fait un travail personnel et tout ça qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Donc je pense que c'est une forme de voilà de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux comprendre aussi ce qui nous habite et qui nous est étranger. Enfin, c'est un peu tout ça, quoi.
Vous avez beaucoup de choses étrangères en vous ?
Bon, comme tout le monde, on est quand même, on a tous un inconscient assez. assez important, j'ai envie de dire. Donc forcément, on a tous reçu des choses. Et puis tout ça, ça fait une espèce de... Voilà, de boîte un peu noire qu'on a du mal à comprendre parfois, quoi. Et puis qui peut aussi nous jouer des tours. Mais je crois que... on apprend un peu en grandissant à connaître ça et à pas trop en avoir peur et à voilà.
Bon, c'est encourageant. Merci beaucoup Valérie Donzelli d'être venue.
Ben merci.
Votre série Nona et ses filles est disponible en VOD sur le site d'Arte. Vous êtes à l'affiche du film Madeleine Collins d'Antoine Barreau et vous serez également dans Azzurro de Mathieu Rosé en salle le 30 mars prochain, un film adapté des Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras.
Tout à fait.
Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre semaine sera aussi joviale qu'un ancêtre de banjo hanté qui, comme vous le savez, est la définition même de la jovialité. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.